This is Radio Free Europe.
9 minutes in Colombia.
Radio Rosana di Paris.
Madonna Radio Globo.
From CNN Radio 7.
Na Radio Dacia.
O Brasil teste que
o Turquia fotora por
Slava Rezia.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui en Arabie Saoudite, ce sera le partout ailleurs d'Éric Valmire. En Chine, où des artistes français cherchent à percer sur ce gigantesque marché. Reportage de Mathieu Culeron. Christine Siméon viendra nous parler de Malcolm X et du rappeur DC's. La fabrique du nouveau monde de Dominique André passera par l'Iran. À 18h55, c'est l'édito d'Alain Frachon en forme de retour sur les émeutes de Baltimore aux États-Unis. Mais tout de suite, ce monde qui n'a pas de frontières, le monde numérique.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Avec nos téléphones, nos ordinateurs, nos objets connectés, nous laissons des traces qui sont autant de données sur nos vies, nos goûts, nos habitudes, notre forme physique. Ces traces, elles ne disparaissent pas, bien au contraire, elles forment une masse gigantesque dont on peine à prendre la mesure, à évaluer les effets, qu'on ne parvient peut-être tout simplement pas encore à penser. Bonsoir Éric Sadin.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain philosophe, vous publiez La vie algorithmique sous titre Critique de la raison numérique. C'est aux éditions L'Échappée. Le livre est dense, technique, mais lisible, y compris pour des lecteurs qui ne seraient ni philosophes ni maniaques du numérique. Alors racontez-nous, pour entrer dans le sujet, les premières pages de votre livre, c'est-à-dire 24 heures dans une vie numérique.
Oui, le livre commence les premières pages comme une petite fiction qui regarderait notre temps présent et un peu ce qui advient aussi, un peu un avenir proche. 24 heures imaginaires d'un personnage anonyme.
Mais imaginable.
Mais imaginable, c'est-à-dire qu'il est suivi en 4 pages, c'est une introduction brève, de son réveil jusqu'à son retour à la maison avant de s'endormir. Et ce que l'on voit, c'est que ses gestes disséminent des traces numériques, et donc induisent une connaissance de ces actes par quantité d'instances tierces, des compagnies privées, mais aussi des instances étatiques, mais pas seulement en vue de le suivre comme un geste de surveillance, mais en vue de faciliter, enfin d'un point de vue supposé, faciliter sa vie, l'optimiser, la rendre plus confortable.
Avoir une couette à bonne température le matin, avoir un thé dont la force a été calculée et pensée selon ses habitudes, avoir des renseignements sur l'état de ses dents, prochain rendez-vous chez le dentiste dans 22 mois. Enfin, voilà, c'est ça ce que vous décrivez.
C'est ça, c'est-à-dire une vie, une existence continuellement assistée par des systèmes dont on dit qu'ils sont intelligents, en tous les cas, qui ont des capacités dotées de capacités interprétatives des situations, mais aussi suggestives. Alors, par exemple, je marche dans la rue, eh bien, par la géolocalisation, par mes historiques, ce qu'on nomme les historiques, c'est-à-dire mes activités passées, cette connaissance-là par quantité d'instances, eh bien, me suggère, notamment par la géolocalisation, eh bien, tel magasin de chaussures, ou même, j'ai presque envie de monter le curseur, j'ai envie de dire, de rencontrer telle personne dans tel café. Donc vous voyez, c'est une connaissance en fonction de mes historiques, de mes intérêts. Donc vous voyez, c'est une connaissance. Nous ne sommes plus seulement dans l'âge de l'accès, c'est-à-dire l'âge de la visibilité, de l'accès à une infinité de corpus écrits, sonores, iconiques, vidéos. Nous sommes aujourd'hui dans l'âge de la connaissance des comportements, aussi bien individuels et collectifs. Et cette connaissance induit en retour le fait que la décision humaine, de plus en plus, notamment via les smartphones, mais pas seulement, et de plus en plus pressé, de plus en plus il y a des suggestions adressées aux individus en vue d'orienter le cours de leur vie.
Par exemple, et on va passer ensuite à autre chose, ne rentre pas par là ce soir chez toi, puisque l'historique démontre qu'il y a eu un certain nombre d'agressions dans telle rue, donc prenez plutôt un autre chemin. Ça peut aller jusque-là. C'est à peine de la science-fiction, ce que vous décrivez.
C'est l'état précisément actuel du numérique.
Voilà, ça on peut le faire.
On peut le faire. C'est-à-dire que croire que l'état du numérique aujourd'hui, c'est envoyer des emails, des SMS ou aller sur des sites, c'est évident. c'est évidemment le cas, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres couches aujourd'hui. Hein. C'est cette histoire de, et c'est apparu massivement avec le smartphone et les applications. L'idée, c'est de faire de la connaissance des personnes, de en retour d'offrir quantité de services. Hein. Mmh. Par exemple, nous avons parlé d'introduction de l'Apple Watch il y a deux semaines. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Apple Watch? Enfin, je parle pas de l'objet lui-même. C'est
la montre connectée.
Voilà, ces bracelets connectés. Pourquoi ils sont connectés? Parce qu'en retour, il y a une connaissance, ça induit une connaissance des flux corporels, de nos attitudes. Hein. Et en retour, ça ne s'arrête pas seulement cette connaissance. En retour, il y a des suggestions sous forme de services. Donc, ce que je relève dans mon livre, ce que j'ai analysé, qui n'est pas toujours vu de près, en tout cas analysé de suffisamment près à mon sens, c'est que ce schéma-là que nous décrivons là en peu de temps, hein, depuis quelques minutes, induit une service, ce que je nomme une servicisation de tous les champs d'existence, une marchandisation à terme de tous les champs d'existence. Par exemple, là, une balance connectée, en fonction de mes courbes, en fonction de mon poids du jour, des évolutions, eh bien, va induire en retour des propositions de compléments alimentaires, d'offres de séjour à la montagne. Donc, vous voyez, cette connaissance-là ne s'arrête pas seulement à des données stockées, elle induit en retour une pression et sous forme de service. Et ce modèle-là, moi, je le dénonce. Parce qu'il y a ce que je nomme, et ce qu'on peut nommer très précisément, une marchandisation intégrale de la vie, dont on doit se demander si cela, car c'est développé par l'innovation contemporaine, si cela constitue un modèle civilisationnel de valeur. Pour ma part, je ne le pense pas.
Est-ce que la vérité du monde numérique, c'est de ne connaître que des clients ?
Il y a quelque chose comme ça. Malheureusement, c'est ce que nous avons vu avec Google, qui au début, Google qui est apparu en 98, qui au début, eh bien, nous rendait possible la visibilité de aisée, hein, de faciliter l'accès, hein. Eh bien, on a vu notamment avec Google, mais avec quantité d'autres entreprises, qu'il y avait une monétisation de nos gestes, hein, par les mots-clés, des publicités ciblées, car de plus en plus, nous allons vers un schéma où les individus, les offres qui leur sont adressées sont personnalisées, hein. Nous allons vers la recommandation personnalisée, et la recommandation personnalisée ne constitue qu'une forme extrêmement continue, maintenue d'offres d'adressage de messages ou d'offres de services, d'offres de produits en fonction d'une connaissance toujours plus précise des individus.
Et oui, c'est le rêve du marketing. C'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire que le marketing, qui est une science entre guillemets, qui cherche à faciliter la vente et l'achat, et pousser à la vente et à l'acte d'achat. Là, c'est pour une fois à la personne même. À vous, que l'on connaît, dont on connaît les goûts, lieu de vie, les historiques, effectivement, de recherche. C'est à vous-même que le marketing va s'adresser.
C'est ça. Nous allons vers la mort de la publicité. C'est-à-dire la publicité entendue comme un message indistinct adressé à des cibles distinctes par le numérique. Hein, il faut bien voir comment ça se passe. Les schémas qui sont à l'œuvre permettent ce que les marketeurs nomment la relation client ininterrompue, c'est-à-dire un suivi ininterrompu, hein, par la connaissance des comportements. Pas seulement, alors jusqu'à quelques années, nous aurions dit par les navigations Internet, par l'usage des cartes de crédit, mais ce n'est plus cela aujourd'hui. Nous entrons dans une autre ère par la prolifération des objets connectés, hein, et notamment les bracelets connectés, c'est ce dont nous avons parlé. Il y a une connaissance de plus en plus, de gestes de plus en plus étendus du quotidien, hein, notamment par la géolocalisation, et ce qui fait que cette connaissance, j'ai presque envie de dire, de la personne consommateur, hein, l'individu dont on récolte des traces, il est immédiatement envisagé comme un consommateur.
Vous le dites, Eric Sadin, il y a une forme de marchandisation généralisée du monde, il y a des intérêts privés, ce sont des entreprises qui collectent ces données extrêmement intimes sur nous. Ce monde-là est-il réversible, d'après vous ?
C'est très compliqué. C'est très compliqué car il y a un mouvement technico-économique, hein, va-t-on dire simplement, qui est dont l'esprit vient de la Silicon Valley, dont je pense pour ma part qu'il y a de la psychiatrie. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une folie, hein, il y a une folie prédatrice, c'est-à-dire de vouloir tout transformer en service, de nier les acquis historiques. Je pense qu'il y a, regardez cette histoire extrêmement intéressante des Google Glass qui ont été mises entre parenthèses.
Et dont on a dit qu'elles étaient un échec, c'était des montres connectées qui permettaient.
Voilà, qui induisait ce qu'on nomme la réalité augmentée, c'est-à-dire de percevoir avoir des informations qui apparaissaient sur l'écran, enfin sur un des verres incrustés, parallèlement à la perception naturelle des choses. Eh bien, cet ouvrage, enfin ce dispositif technique, est une invention de la Silicon Valley. Hein, et moi, j'ai été ravi de voir qu'il y a eu des résistances de la part des individus, de sentir que trop, c'est trop. Par exemple, cher Nicolas Demorand, je vous croise dans la rue, admettons que je ne vous connaisse pas, eh bien, j'aurai pas la reconnaissance faciale, qui est extrêmement problématique comme dispositif, c'est-à-dire de pouvoir vous reconnaître, et donc d'avoir des informations sans que vous ne donniez votre assentiment. On voit bien que là, il y a des acquis historiques, c'est-à-dire l'altérité des acquis éthiques, juridiques, le droit de bénéficier d'une part cachée, hein, qui est remise en question, qui est atténuée, affaiblie, par ce que je nomme le technopouvoir, c'est-à-dire le monde numérico-industriel, qui ne se soucie pas des acquis historiques, qui ne se soucie pas des lois, et qui en plus, pour terminer, qui en plus se soustrait à l'impôt, on le sait très bien, comme les grandes compagnies comme Amazon, Google, se soustrait à l'impôt de là où l'activité s'exerce.
Donc
sur des territoires nationaux.
Vous pensez qu'il y a une folie fondatrice dans ce déploiement incessant de progrès?
Je le pense de plus en plus. Je pense qu'il y a une psychiatrie de la part de ces ingénieurs. C'est un peu il y a du professeur Tournesol à la Silicon Valley, hein. Comme il y a, enfin, professeur Tournesol qui ne se soucierait que de leur profit. Hein, qu'assouvir leur passion à vouloir inventer des nouveaux dispositifs. Certes, il y a de l'honneur humain à inventer des choses, mais quand ce n'est que en vue de développer des modèles prédateurs, c'est-à-dire à vouloir collecter tout des individus en vue de tout transformer en service. Et je le dis ici ce soir, le modèle de la French Tech, tant défendu par Axel Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, contre qui je n'ai rien personnellement, tout le contraire. Mais je tiens à souligner que le modèle de la French Tech, par exemple, comme tous les modèles de l'innovation numérique actuelle, sont basés à 90%. Et quand je dis 90%, c'est pour être un peu mesuré dans mes propos.
Sur quoi ?
Sont basés sur la collecte de données, la transformation en service. Et c'est à l'œuvre particulièrement dans un champ extrêmement sensible qui est celui de la médecine. Vous savez, les bracelets connectés dont nous avons déjà parlé, là.
Hein, oui, ils mesurent le pouls, le rythme cardiaque.
Si on les garde la nuit, la qualité du sommeil.
Qu'est-ce que
cela induit? Historiquement, la médecine était composée des médecins, des hôpitaux d'une part, des pharmaciens, des fabricants de produits pharmaceutiques et des pharmaciens, et puis après des instituts de bien-être et du paramédical. Et bien aujourd'hui, par la collecte de données du corps, hein, et par les applications, c'est-à-dire quantité de sites qui analysent et qui se permettent d'offrir en retour des solutions médicales, parfois en argot, qu'il y a un médecin, dont on un barbu, on voit la photo sur le site, on se dit, mais qui est ce médecin? Il aurait fait des miracles. Eh bien, il y a une marchandisation accrue de la médecine par la multiplication d'acteurs. Et c'est le modèle de l'innovation numérique qui induit cela. Et là, ça pose évidemment des problèmes sociétaux, juridiques, éthiques. Hein, et là encore, il y a des acquis, notamment le serment d'Hippocrate, hein, c'est-à-dire la forme d'intimité qui mérite davantage de débats sociaux et de controverses publiques.
Hein. Éric Sadin, que pensez-vous du projet de loi sur le renseignement qui vient d'être adopté aujourd'hui à l'Assemblée, qui a déclenché notamment sur Internet des critiques très très virulentes sur le thème Big Brother, Big Data est désormais parmi nous et la France se dote d'une loi dont il vaut mieux espérer qu'elle se retrouvera jamais entre de mauvaises mains. Vous avez pensé quoi de ce débat?
Alors, vous savez peut-être, Nicolas Demorand, que j'avais écrit en 2009 un livre chez Flammarion qui s'appelait Surveillance globale. Donc, j'ai beaucoup étudié la question. En 2009, on disait que j'étais un peu paranoïaque. Depuis Snowden, on a vu que je disais pas trop de bêtises. Je pense que cette loi, alors évidemment, elle porte atteinte à aux libertés publiques parce que elle suppose la récolte des données, des métadonnées de tous les citoyens de façon indiscriminée. Alors, elle a suscité de l'indignation, pas suffisamment de mobilisation. Elle est votée aujourd'hui après première lecture, donc de façon expresse. Mais je pense, pour ma part, que l'indignation relativement à la surveillance numérique étatique relève presque d'un néoconformisme, selon moi.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire que c'est facile aujourd'hui de s'indigner relativement à la surveillance numérique étatique, hein, gouvernementale, par des agences étatiques. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, c'est ô combien légitime, mais il me semble que ça occulte le mouvement principal aujourd'hui, notamment par l'extension des objets connectés, par les instruments que nous utilisons nous-mêmes. Nous devons interroger notre propre pratique, les usages que nous avons de ces instruments, et qui induisent une connaissance de nos attitudes, de nos comportements, acquise par une multitude, une myriade de compagnies privées. Or, avec cette loi dont je dis encore qu'elle est répréhensible, hein, que c'est une faute. C'est une faute politique, c'est une faute sociétale, c'est une faute éthique et c'est une faute juridique.
Ça fait beaucoup.
Bon, mais elle occulte le fait que ce mouvement-là est à l'œuvre de façon beaucoup plus large
dans des entreprises privées.
De façon quotidienne, nous ne cessons de disséminer par notre assentiment. Donc il faut aussi... quand je dis que c'est un néoconformisme, c'est-à-dire que nous occultons le fait que nous-mêmes sommes engagés dans la visibilité de nos comportements. Et que si nous ne voulons pas de surveillance numérique...
Mais il faut couper le téléphone.
Il faut interroger.
Et arrêter l'ordinateur, Internet...
Et savoir si nous voulons porter des montres connectées, mettre des puces dans nos réfrigérateurs, dans nos machines à café, si dans les organes de travail de plus en plus truffés de capteurs, cette connaissance de plus en plus intégrale de la vie, nous y participons. Et c'est cela qui, à mon sens, devrait principalement faire l'objet de débats et de controverses.
Une dernière question, Éric Sadin, elle est pour votre jardin. Est-ce que la philosophie, vous êtes philosophe, n'est pas totalement débordée par le caractère radicalement nouveau de ce monde?
Je le pense. En tout cas, il revient aux sciences humaines, à la philosophie, d'analyser les phénomènes à l'œuvre, au-delà des discours, car il y a beaucoup de discours qui enjolivent, c'est comme cette histoire d'économie contributive, collaborative. En réalité, ce ne sont que des sites qui mettent en relation les individus entre eux en vue d'opérer des transactions, et qui ponctionnent des sommes. Donc il y a beaucoup comme ça de discours, d'horizons. Le numérique a engendré beaucoup d'utopie, de discours émancipateurs. Il revient aux sciences humaines, à mon sens, d'analyser les faits au-delà de tout enjolivement, de façon analytique, et d'exposer les forces à l'œuvre, et d'engager autant que possible à entretenir un rapport politique et citoyen aux technologies numériques.
C'est-à-dire que ce ne sont pas des gadgets. C'est ça qui est attaqué.
C'est-à-dire le monde numérico-industriel s'arroge un pouvoir sur nos existences, et il convient, nous, citoyens, philosophes, consommateurs, étudiants, quand je dis étudiants, l'apprentissage de la connaissance de ces systèmes à l'œuvre, d'ériger des contre-pouvoirs, de ne pas accepter les systèmes, les schémas qui se mettent à l'œuvre que nous avons évoqués à grands traits, là, jusqu'à maintenant, et de faire en sorte que le droit humain reprenne la main, parce qu'il me semble, pour terminer, si je peux juste dire ça, Nicolas Demorand,
allez-y.
Il me semble que ce qui est atténué en ce moment, c'est l'intimité humaine, c'est l'altérité humaine et c'est la dignité humaine. L'intimité, c'est-à-dire le droit de vivre de façon repliée à l'abri, l'altérité, le droit de ne pas tout connaître de mon interlocuteur et d'autrui, et la dignité, c'est-à-dire de ne pas transformer la personne humaine comme simplement objet marchand. Et c'est cela que j'ai cherché à analyser dans mon livre.
Merci Éric Sadin, et en vous entendant, amis auditeurs, vous comprendrez pourquoi il faut lire La vie algorithmique, sous-titre Critique de la raison numérique, c'est aux éditions L'Échappée. Je le répète, on manque de concentration dans nos vies numériques, mais c'est un livre qui, si on le prend avec la concentration que mérite un livre, et bien se lit tout à fait normalement. Merci beaucoup Éric Sadin d'être venu nous en parler.
Merci à
suivre ces artistes français qui veulent percer en Chine. Il est 18h35, vous écoutez France Inter. C'est une très bonne chose. Balthazar Bunker.
Every time I walk on by, stroll along the street, can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to ask for. Yeah. Sleep my broken bones, I'll take a load of your skin.
Balthazar Bunker sur Inter, il est 18h37 et on file en Chine.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde, sur France Inter.
La Chine avec Mathieu Culeron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous revenez de ce vaste pays où vous avez suivi un groupe de musiciens français bien décidés à conquérir le plus grand marché du monde.
Oui, l'opération se nomme le French Miracle Tour. 4 groupes et un DJ qui iront jusqu'au 24 mai un peu partout en Chine, de Pékin à Shanghai, de Jinan à Shenzhen. Des groupes originaires de Rennes, Manceau, Clarence et Juveniles. Alors pourquoi des groupes essentiellement bretons? Ça peut paraître bizarre. Eh bien, figurez-vous qu'il existe un lien presque historique entre la Bretagne et la Chine. Il se trouve qu'en 2005, il y a tout juste 10 ans, les Bretons exportaient leur festival Les Transmusicales à Pékin. Et ce festival deviendra le premier festival de musiques actuelles en Chine. Pierre Ablan a participé à l'organisation de ce festival. Il est promoteur de spectacles et vit aujourd'hui à Pékin. Il nous explique pourquoi la Chine devient un Eldorado dans la tête des musiciens occidentaux.
La Chine a énormément évolué entre 2003 et aujourd'hui. Le marché s'est structuré, les groupes ont explosé, les salles se sont créées, il y a une industrie qui se met en place. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de chemin à prendre pour avoir un marché type européen ou type américain. La culture en général est une économie en plein boom et il y a beaucoup de choses encore à faire. Moi par exemple, je travaille beaucoup avec Mathieu Chédid que je représente ici en Chine et là on prépare une troisième tournée l'année prochaine. On a sorti un album l'année dernière, il est venu l'année dernière, on a fait 9 concerts sold out quasiment tous. Et voilà, oui, il y a plein d'artistes qui veulent se positionner et qui ont envie de développer une carrière ici en Chine.
Et parmi les jeunes groupes français qui ont envie de se construire une carrière, Mathieu, il y a donc Juveniles ou Juvenile, on peut dire les deux.
Oui, les deux. Oui, un groupe qui est venu en Chine l'année dernière et qui revient donc cette année avec cette tournée French Miracle Tour. Jean-Sylvain Le Gouic, le chanteur de Juveniles, se souvient.
On était venu l'an dernier déjà avec Juvenile et donc Ousenou aussi qui joue dans Clarence là dans cette tournée. Tout de suite, je me rappelle que alors ça devait être à Xi'an il me semble. On avait fait une séance de dédicace après le concert sans vraiment se dire bon est-ce qu'il y aura vraiment du monde qui va venir au stand. Et en fait on a fini par faire 1h30 là-bas avec 150-200 personnes qui sont venues, qui voulaient les t-shirts dédicacés, posés avec nous en photo. Même un petit souvenir, un petit gris-gris, un petit truc, ça nous a vraiment étonnés ouais.
Voilà le public chinois très réceptif au jeune groupe français. Ça, c'est le côté positif de cette nouvelle révolution culturelle chinoise, pourrait-on dire. L'aspect moins positif, c'est que depuis quelque temps, le régime chinois a tendance à reprendre en main l'organisation des concerts. Et les Juveniles ont un peu essuyé les plâtres de cette nouvelle politique, comme l'explique justement JS, le chanteur du groupe.
Blaise de l'Alliance française nous avait un peu... Voilà, mis au courant quand on est arrivé que il y avait peut-être des soucis avec les autorités. Alors on n'a pas très bien compris, on a l'impression que ça devient un peu dur apparemment pour les prods locales, les alliances françaises, les instituts français de faire venir des gens encore, ce qui avait l'air d'être plus facile il n'y a pas si longtemps que ça. Et ouais, je pense qu'on en a payé les frais à Jinan, les autorités sont venues, on fait arrêter le concert, on n'a pas pu jouer alors que des gens étaient là, il y avait 130 préventes. Et donc l'organisateur a dû platement s'excuser devant tout le monde.
Bonsoir à tous, donc je suis vraiment désolé. le concert de ce soir ne va pas pouvoir avoir lieu. Donc le concert est annulé. Voilà. Le petit.
Ben voilà ce que ça donne, des annulations de concerts, Mathieu, donc qui semblent se multiplier ces derniers temps en Chine.
Oui, par exemple, le plus gros festival chinois, le Strawberry, a été annulé il y a tout juste une semaine. Et pour tous les observateurs présents en Chine, les choses changent, comme le confirme Blaise Thiré, qui est directeur de l'Alliance française à Jinan.
On dirait qu'on est plutôt dans une phase de durcissement. Qui n'est pas que négatif, parce qu'il y a aussi, par exemple, tout ce qui a trait au respect des droits d'auteur, au respect de l'industrie. Mais il y a clairement aussi, je dirais, au niveau idéologique, une sorte de raidissement. Il faut faire du cinéma chinois, il faut faire de la musique chinoise, mais aussi un sorte de raidissement idéologique. Et donc là, c'est plus au niveau du contenu, donc ça, c'est un petit peu plus embêtant. L'anaconda dans le chandelier, c'était une métaphore. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une menace qui est au-dessus, qui est potentiellement dangereuse, mais on fait toujours un petit peu attention à ça.
Relation complexe entre la Chine et la musique.
Oui, et on le rappelle, avant de monter sur scène, tous les textes des chansons sont visés par la censure dans un pays où Google, YouTube, Facebook et Twitter sont toujours bloqués par les autorités pour des raisons politiques et économiques.
Passionnant reportage. Merci beaucoup, Mathieu Culeron.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
Le rappeur, DC's est aujourd'hui rédacteur en chef d'Un Jour sur le site de France Inter. L'homme suscite le débat, il a un temps revendiqué lui aussi le droit à l'outrance. Aujourd'hui, il est de ceux qui disent « Attention, une partie de la France est laissée pour compte, il faut faire absolument quelque chose ». Ce matin sur le site de France Inter, dans sa revue de presse, il a regardé la France de Charlie un peu à la manière d'Emmanuel Todd. Et Christine, vous avez choisi d'emmener DC's sur les traces de Malcolm X à Paris. Pourquoi donc ce choix ?
Mais parce que Dizzy, le jeune de banlieue devenu rappeur, est un lecteur fervent de Malcolm X, comme tous les grands garçons qui ont besoin d'un papa pour les prendre par la main. Petit rappel sur Malcolm X, c'est le bad boy de la lutte pour les droits civiques pour les Noirs aux États-Unis. Il faut dire qu'au départ, il y avait un peu tout pour déplaire, délinquant, trafiquant. En plus, il s'est fait happer lorsqu'il était en prison par la secte Nation of Islam et son mentor. Et en tant que militant pour les droits civiques, il a diabolisé les Blancs dans ses discours racistes. Mais peu à peu, des divergences se sont faites entre lui et Nation of Islam et il a dû quitter le mouvement. En avril 64, il fait son pèlerinage à la Mecque et il en revient en musulman apaisé. Il abandonne le racisme anti-blanc et sera assassiné quelques temps après, d'ailleurs en 65.
Et Malcolm X est venu, Christine, une fois à Paris, c'était en novembre 64.
Oui, effectivement, et la deuxième fois qu'il a essayé de venir en 65, il a été refoulé, mais en 64, donc il vient à l'invitation d'Alioune Diop, le fondateur de présence africaine à Paris. C'est à l'époque un carrefour pour tous les intellectuels africains ou noirs en Europe, très important lieu de réflexion. Et dans l'entretien qu'il donne dans la librairie Présence africaine à l'époque, à la télévision, Malcolm X reproche aux mouvements noirs américains leur manque de virulence face au président Johnson.
À mon avis, c'est une erreur tactique des dirigeants noirs aux États-Unis d'avoir mis une sourdine à nos revendications avant qu'elles aient été satisfaites. Ça a beaucoup aidé le gouvernement Johnson et ça a aidé Johnson à remporter la victoire aux élections. En fait, il est au pied du mur étant donné que 97% des Noirs ont voté pour lui. Il n'a plus aucun alibi pour éviter de faire aboutir les justes réformes, les réformes morales et satisfaire les revendications que nous avons posées depuis si longtemps. Fulfilling the demands that our people have been making here for such a long time.
Do you think he will do that? No. Est-ce que vous pensez qu'il va... No. Voilà, c'était un extrait du journal de 20h du 23 novembre 1964 avec le journaliste Maurice Werther.
Oui, et ce que Malcolm X exprime là, en fait, Nicolas, c'est la différence, sa différence avec Martin Luther King notamment. J'ai donc ramené Dizzy's dans la librairie Présence africaine, au même endroit, et voilà ce qu'il dit aujourd'hui.
C'est un personnage qui est beaucoup moins consensuel que Martin Luther King. Je pense que les deux étaient complémentaires, que les deux menaient la même guerre, mais qu'ils n'avaient pas les mêmes armes. Je pense que Martin Luther King, pour le noir du ghetto américain qui est désabusé et qui ne peut pas être touché par l'amour parce qu'il est trop dans la haine depuis qu'il est petit, Martin Luther King ne pouvait pas parler à ces gens-là. Malcolm X pouvait parler à ces gens-là, parce que lui-même venait de ça. Malcolm X, ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il est parti de la noirceur, du stupre, des choses les plus dures pour arriver à quelque chose de très lumineux. Là où dans Martin Luther King, dans le storytelling qui est fait, il n'y a que de la lumière.
Voilà, vous reverrez cet extrait en vidéo sur le site de France Inter. Malcolm X a inspiré les Black Panthers, les militants du ghetto de Soweto. Que faire aujourd'hui de Malcolm X à l'heure des émeutes à Baltimore et dans la France de Charlie? Question, que ferions-nous d'un Malcolm X, Dizis?
Quand c'est les événements de janvier avec les frères Kouachi, je ne sais pas pourquoi, peut-être à tort et peut-être que je me raconte des histoires ou je ne sais pas, mais je me dis, et si ces deux jeunes-là, malgré toute la sale vie qu'ils aient eue et les sales choses, bref, s'ils avaient lu Malcolm X, est-ce que ça les aurait fait bifurquer vers un autre moyen d'exorciser toutes les mauvaises choses qu'ils ont en eux et leur folie et tout ça et tout. Je me pose cette question-là.
Voilà, Malcolm X qui aurait eu 80 ans cette année. Dizis organise une conférence à la Sorbonne le 16 mai, avant un concert hommage au Bataclan le 19 mai. Et je vous donne rendez-vous tout de suite à 19h, là, dans quelques instants, sur Twitter avec le hashtag DizisInter pour poser vos questions à Dizis. Il répond sur Twitter.
Merci beaucoup, Christine Siméon. Le hashtag DizisInter, donc 18h47.
Thanks so much for that report.
Et c'est le partout ailleurs d'Éric Vanmier. Bonsoir Éric.
Bonsoir Nicolas.
L'Arabie Saoudite aujourd'hui.
Riyad, partenaire économique financier de premier plan de l'Occident, c'est à la une de l'actu aujourd'hui. Grâce aux Saoudiens, le maintien à flot des marchés financiers, une influence sur les coûts de l'immobilier dans nos grandes capitales, des entreprises en manque de liquidité renflouées. Et cette complicité avec l'Arabie Saoudite perpétue ainsi l'ordre, on va dire quasi moyenâgeux, qui règne dans le pays. Les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits du travail, sujet guère évoqué dans des réunions où sont en jeu des milliards de dollars. Or, dans une époque où l'on parle beaucoup d'immigration, l'Arabie Saoudite est un pays aux méthodes peu orthodoxes dont on parle très peu. Depuis le 4 novembre 2013, le royaume a débuté une véritable traque contre tous les travailleurs immigrés venus illégalement sur le territoire saoudien pour améliorer leurs conditions de vie. En 18 mois, 1 million de migrants dehors et manu militari. L'Éthiopie a même mis en place des rotations aériennes pour rapatrier tous les ressortissants malmenés. Le gouvernement saoudien appelle ça la réforme du marché du travail. Nitakat, c'est le nom de cette réforme, est un système de quotas obligatoire d'emploi saoudien calculé en fonction du secteur d'activité. L'expulsion des travailleurs étrangers en situation irrégulière prend place dans ce contexte donc très large de reprise en main par l'État saoudien du contrôle sur l'importation de main-d'œuvre. Mais pensez, la saoudisation de l'emploi en termes de remplacement des étrangers par les Saoudiens est erronée. C'est un peu comme chez nous, c'est les emplois dont personne ne veut. En conséquence, les professionnels du bâtiment ont exprimé leurs doutes quant à la crédibilité de ce plan, d'autant que la main-d'œuvre étrangère est évidemment moins onéreuse, plus malléable et offre des rendements plus efficaces. Voilà donc 6 millions de travailleurs immigrés coincés entre des autorités qui durcissent leurs conditions d'intégration et des patrons, rebaptisés ici califes, qui font régner la terreur sur leur chantier. L'Organisation internationale du travail dénonce des conditions indignes, salaires dérisoires, mais ça on va dire que c'est le béaba, surtout discrimination, violence physique, harcèlement moral. Rien qu'en 2014, mais que vaut cette statistique, 23 000 plaintes ont été déposées auprès des autorités saoudiennes, évidemment classées sans suite. C'est dans ce contexte que surgit une vidéo sur le net saoudien, Je n'ai pas peur du calife. Le clip met en scène des travailleurs immigrés pakistanais, près de 3 millions de connexions sur YouTube, un succès inattendu qui s'explique par l'expression de ce sujet tabou, véritable phénomène de société. Au départ de cette vidéo, l'immigré pakistanais est tranquille, il observe une pause, il est dans un local totalement délabré, un canapé défoncé. Il regarde un sitcom sur une télé pourrie et là intervient son calife saoudien. Ah, c'est pour ça que je te paye, pour que tu te tournes les pouces. Tu crois que je t'ai fait venir du Pakistan pour regarder la télé? Voilà en gros ce qu'il lui dit. Il va lui hurler dessus et s'en va en claquant la porte. L'immigré va se lever dans un arabe teinté d'ourdou pakistanais. Il va dire « Oh, j'ai pas peur du calife, moi. C'est moi qui porte tout sur mes épaules. Qui fait les routes? Qui enlève les ordures? Les Saoudiens oublient qui fait tout le ménage ici. J'ai pas peur du calife. » En Arabie Saoudite, comme dans tous les pays du Golfe, les Pakistanais, Indiens et Bangladais chiques constituent la majorité des immigrés, souvent chargés des tâches les plus ingrates. Et voilà ce rap incroyable devenu véritable hymne sur les chantiers.
انا شيل كل شي فوق جو Ana rukim kushefo go. Ana kufil sawi sho lo.
Saudi kalam piti, kulu Saudi sawi muti. Sibi kama, sawi juga dema asalama. Mi sawi kulu haja fi sudi, mi sawi buna tahtia. Mi jugul mia mia, ha. Saudi kalam never bengali haramia. Itu mafi mia mia, itu mafi mia mia. Min sawi kabari, min sawi majari, min. Min shir zubala, min sugar bigala, kolo saudi nasi, min sugar takasi,
kolo saudi nasi, min sugar takasi.
Incroyable morceau, hein.
Les immigrés pakistanais qui chantent. Évidemment, d'un point de vue technique, 3 millions de connexions sur YouTube. Cette dénonciation n'aurait pas été possible sans l'implication de journalistes saoudiens, 4 dirigeants d'une boîte de prod, Télévision 11. Évidemment, l'immigré pakistanais étant très mal vu, ce procédé a aussitôt provoqué sur la toile des détournements, des parodies, ou sur la même musique, on voit les immigrés couler des jours heureux, ne rien faire, des feignants qui fument des gros bœufs et qui profitent du système en abusant de la confiance de leur gentil calife. C'est la réalité clivante de l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui.
Éric Valmire, merci. Et la fabrique du Nouveau Monde est ce soir en Iran. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir Nicolas.
Hier, le président Hassan Rouhani a affirmé que la police n'était pas là pour appliquer la loi islamique. Et ce soir, Dominique, vous nous faites le portrait d'une jeune iranienne, symbole de ce changement en cours en Iran.
Yasmine Valipour est née en Iran. C'est la fille d'un haut fonctionnaire du Shah qui a fui Téhéran avec ses parents dans les années 80, après la prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeini. Elle fait partie de ces 5 ou 6 millions d'Iraniens, dit-on, qui ont émigré, contraint de fuir. 35 ans après, Yasmine n'a jamais oublié son pays natal.
La Perse est née un peu avant les Grecs, a bien connu l'Empire romain, a connu les Byzantins, a connu l'invasion arabe, l'invasion des Mongols. Elle continue à exister. Donc en fait, la pérennité de la culture va au-delà des régimes, quels qu'ils soient. Et c'est aussi ça la force de l'Iran, de ses citoyens ou des gens qui s'y intéressent. Je pense que les cultures transcendent les régimes politiques.
L'Iran attend, Dominique, la levée des sanctions internationales qui ont plongé l'économie dans une grave crise. Ce qui va amener d'ailleurs les jeunes Iraniens à investir aussi.
Oui, comme Yasmine d'ailleurs, elle qui rêve, comme beaucoup de jeunes, d'un réveil. Vous l'avez entendu, à quel point elle est attachée à son pays, d'une renaissance de ce pays. L'immigration pour elle a été très dure. Yasmine a donc quitté la finance où elle avait un salaire très élevé dans une grande banque occidentale. Elle repart complètement à zéro. Elle vient de créer une toute petite entreprise dans les cosmétiques qui allie la tradition persane au savoir-faire français avec la femme au cœur de son projet.
On a commencé à travailler le safran et la pistache, hein, deux plantes emblématiques qui sont en plus natives, originaires de l'est de la Perse, donc l'est de l'Iran actuellement, à la frontière avec l'Afghanistan. Faire ce projet autour de la féminité avait du sens, et c'est aussi emmener les femmes vers un nouveau territoire de beauté, ce qui nous fait plaisir dans la vie. Le plaisir est extrêmement important, la beauté d'une femme peut y participer. Ce projet consiste aussi à faire converger de manière harmonieuse deux grandes cultures pour lesquelles les arts, la littérature et la beauté sont très importantes.
Ça ressemble à un réveil en Iran, hein, Dominique.
Oui, avec vraiment un dynamisme. D'ailleurs, qui a-t-il vraiment été mort en Iran, ce dynamisme? Tout juste contraint, en fait, nous dit Yasmine, contraint comme les femmes.
Comme nous le savons et nous l'avons constaté partout, sous des régimes un peu autocratiques, il y a une créativité folle, parce que je pense qu'au contraire, il y a beaucoup d'énergie qui nous demande qu'à être libérée. Donc personnellement, je suis optimiste là-dessus, sur l'avenir proche. Et surtout, je pense que les femmes vont prendre part à cette renaissance, hein, et surtout à ce retour dans le concert des nations qui existe depuis des années sur le plan artistique. Donc le cinéma ou l'art contemporain en Iran réserve toujours de belles surprises, mais disons sur des aspects aussi plus économiques. Je pense qu'il y aura de la créativité, il y aura probablement naissance de technopôles régionaux en Iran, parce que les gens sont extrêmement bien éduqués et que le fait qu'il y a eu cette émigration massive depuis 30 ans fait que le pays est très connecté à l'international et que probablement une génération formée ici et là-bas aura à coopérer dans le bon sens et qu'il y aura probablement de belles synergies à mettre en place économiquement également.
Voilà, Yasmine ne sera pas la seule, parce qu'on voit que les délégations commerciales étrangères, les grosses délégations, se pressent à Téhéran en vue de cet accord final attendu à Genève. Et on apprend qu'une vingtaine d'hommes d'affaires américain était à Téhéran la semaine dernière, ce que nous disent les médias iraniens.
Merci Dominique André, 18h55.
Un jour dans le monde.
Alors il n'y a qu'une seule hypothèse.
Ça veut dire quoi?
Des bagarres toutes les nuits avec la police. Bref, ce n'est pas rien.
Sur France Inter.
C'est l'édito d'Alain Frachon. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
Vous revenez ce soir Alain sur les émeutes de Baltimore et sur des statistiques absolument édifiantes pour les États-Unis.
La semaine passée, le New York Times a publié un éditorial inhabituellement long et intitulé « Comment les Noirs, les hommes, sont chassés de la société américaine ». C'était après Baltimore, après Ferguson, après Cleveland, après Charleston, bref, après tous ces incidents qui en 2014 et 2015 ont vu des Afro-Américains tomber sous les balles de policiers qui ne paraissaient pas être en situation de légitime défense. Notre confrère new-yorkais cite une étude de l'état civil. Sur une population adulte afro-américaine, celle des 25-54 ans, femmes et hommes se répartissent à égalité. Mais voilà, sur cette population, il manque, c'est l'expression utilisée par le Times, il manque donc 1 500 000 hommes à l'appel. Ils ne sont pas dans la vie active, ils ont disparu. En fait, ils sont pour certains morts de mort violente et pour tous les autres, incarcérés. Ils sont en prison. Autre manière de présenter la statistique, pour 100 femmes noires dans ce même groupe d'âge, il n'y a que 83 hommes. Sans vouloir trop contextualiser, le Times relève les mille et une plaies qui se sont abattues ces 40 dernières années sur les noirs américains, sur l'homme noir américain. Première victime de la désindustrialisation dans la sidérurgie, l'automobile, le textile, chômeur mal armé face à la globalisation économique, sous-éduqué, marché numéro 1 du trafic de drogue et l'écrasante majorité des Noirs américains en prison le sont pour consommation de drogue. Décision catastrophique prise dans les années 1970. L'emprisonnement des consommateurs de drogue a fait exploser la population carcérale américaine. Elle a été multipliée par 7 depuis la fin des années 1970. D'où cette stigmatisation d'une population noire masculine où le passage par la prison installe une présomption systématique de criminalité violente, particulièrement chez les jurés chargés de prononcer les condamnations à mort. Car en prison, dans les couloirs de la mort, on trouve une surreprésentation des Afro-Américains, un détenu sur 3, le plus souvent condamné pour avoir tué un blanc. Ce qui ne correspond pas, mais pas du tout, à la photographie des meurtres aux États-Unis. Entre 1977 et 2013, 47% des victimes d'homicides, pratiquement la moitié, ont été des Noirs aux États-Unis. Pourtant, durant la même période, seuls 17% des cas de meurtres d'Afro-Américains se sont soldés par une condamnation à mort. Cherchez l'erreur, Nicolas. Elle est dans cette stigmatisation de l'homme noir américain, cette stigmatisation du black, stigmatisation durable, tenace, en dépit de tout, en dépit de l'émergence d'une classe moyenne noire, en dépit de l'arrivée des Afro-Américains aux plus hauts échelons des secteurs publics et privés, en dépit de l'arrivée à la Maison-Blanche d'un distingué juriste de Harvard nommé Barack Obama.
Merci Alain Frachon et bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
En quelques mots, le téléphone sonne à 19h20.
On va parler des discours et des politiques surtout à mettre en œuvre pour lutter contre la radicalisation d'un nombre important de jeunes Français. Vous savez qu'on a appris le nombre de tués, 104 déjà. Alors j'attends vos questions pour nos invités évidemment dès maintenant sur les réseaux sociaux franceinter.fr, Facebook et Twitter avec le hashtag Telson et par téléphone bien sûr au 01 45 24 7000.
Merci Hélène, le journal dans 30 secondes.